Retour en studio ce matin d'Émile Procloutier. Émile, bonjour.
Bonjour.
On va parler de vêtements. Je trouve que c'est un beau sujet, ça.
Effectivement. Ben moi, j'avais l'idée d'un coup de chapeau que je voulais faire depuis longtemps, sauf que en fouillant un peu plus sur la question, le lien entre l'industrie de la mode, l'industrie des vêtements et l'environnement, j'ai découvert des trucs pour vrai. Je me rendais compte à quel point j'étais ignorant. Donc, je vous remercie, en fait, de m'avoir invité à faire cette chronique-là chaque semaine.
Partage avec nous.
Parce que oui, non, mais ça m'oblige à apprendre un paquet de trucs. Est-ce que vous savez ce que vous portez en ce moment, Paul? Est-ce que vous savez qui l'a fait, où est-ce que ça a été fait, puis dans quelles conditions?
Aucune idée. C'est-à-dire, on peut, de façon globale, oui, là, on peut présumer que c'est de l'importation, on peut présumer que ça se passe dans des pays où le taux horaire n'est pas très élevé. Là.
Au niveau de l'argent, effectivement. Ouais. Mais je réalise à quel point on ne sait pas vraiment l'histoire de ce qu'on porte, très souvent. Et là, en fouillant un peu, je me rends compte que l'industrie de la mode est la deuxième, écoutez bien ça, la deuxième industrie la plus polluante au monde après celle du pétrole. Je répète, la mode, ce qu'on porte, c'est la deuxième industrie la plus polluante.
Et en quoi elle est polluante?
Alors, d'abord, à plein niveau. D'abord, dans sa fabrication. Les teintures qui sont utilisées peuvent être profondément toxiques et polluer les cours d'eau. Les champs de coton, là, tu sais, il faut qu'ils poussent quelque part, ce coton-là, ils utilisent en masse de pesticides pour l'arroser. De plus en plus, on fait des vêtements en fibres synthétiques qui sont souvent faits à base de pétrole. Une fois que ça se ramasse au vidange dans les sites d'enfouissement, ben, ça contamine les sols. Et puis là, ben, évidemment, je parle juste de l'aspect environnemental. Vous avez évoqué l'aspect humain. Donc, le fait que les gens sont souvent très mal payés, voire travaillent dans des conditions qui peuvent être inhumaines ou épouvantables. Mais si je me concentre juste sur la question vraiment du lien entre la mode et l'environnement, ça va être donc fabriqué d'une manière qui peut être profondément polluante. Évidemment que ça se transporte beaucoup, ça voyage beaucoup, là, cette marchandise-là. Et on la jette de plus en plus rapidement. Au Québec, chaque année, on jette 180 000 tonnes de vêtements par année.
On jette ou on met ça dans des bacs là, qui existent?
Ce que Reçu Québec dit, c'est qu'on jette. Les Québécois jettent 180 000 tonnes de vêtements par année. Et donc, en Amérique du Nord, ce serait 36 kilos par être humain. Là. Vous et moi, là, on va jeter 36 kilos. Là. Ça, c'est plutôt qu'une brassée normale, c'est 2,7 kilos. Là. C'est comme si on jetait 13 brassées de lavage par année. Ça fait pas mal. Il y en a qui sont donnés. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui prennent la peine d'amener ça dans des centres de dons. Que se passe-t-il lorsqu'on amène nos vêtements dans un centre de dons? C'est pas 100% qui va se ramasser sur les rayons, puis ce qui se ramasse sur les rayons, c'est pas 100% qui va être revendu ou acheté à nouveau par quelqu'un qui en a besoin. Au Canada, mettons, paraît-il que grosso modo, selon les organismes, là, c'est un centre de tri, évidemment, donc il y en aurait, paraît-il, la moitié de ce qu'on amène, de votre poche de linge que vous amenez au centre de don, il y en a la moitié qui va être acceptée seulement pour la revente ici. Donc, il va se ramasser dans le magasin. Et de ce qui se ramasse dans le magasin, seulement une autre moitié de cette moitié-là va être vraiment achetée par quelqu'un. Donc, c'est comme s'il y en avait 75% qui ira jamais, qui sera pas porté par un Canadien, du moins.
Et ce 75% devient quoi?
Où c'est qu'il va? Alors, il y en a une partie qui va se ramasser dans un site d'enfouissement parce que, bon, il est troué, il est endommagé, il est sale, tout ça, ils savent pas quoi faire avec, donc ils vont le jeter, ça va se ramasser dans le sol. Ça se peut aussi, il y a des organismes qui arrivent à les revaloriser autrement. C'est ça dépend, là, je pourrais pas faire le portrait au complet, sauf que bon, je sais que le Village des Valeurs arrive, mettons, à en sauver là, presque 95% du site d'enfouissement. Ils vont en vendre un genre de 25%. Il y en a une autre partie qui va être transformée. Ça peut être déchiqueté, devenir des chiffons, par exemple. Ça peut être donné à des designers de mode qui réinventent, tu sais, qui font de la mode de seconde main, disons. Il y a d'autres organismes comme un qui s'appelle Certex qui est basé à Saint-Hubert. Eux, ils vont effectivement en vendre une partie dans une friperie, mais le reste va être encore là, transformé ici en d'autres choses et beaucoup va être renvoyé ailleurs. Alors, ça se peut que ça reparte vers Toronto, vers Houston, ça se peut que ça reparte vers l'Inde ou le Kenya même, les vêtements reprennent un bateau, ça se peut qu'ils soient revendus ou redonnés là-bas.
Ça devient une matière première là-bas?
Ça se peut que ça reste du linge revendu là-bas pour vraiment pas cher, mais ça se peut aussi que oui, ça soit déchiqueté pour devenir à l'occasion de l'isolant ou du rembourrage de sièges de char. Ça se peut. Mais bon, le T-shirt, il va avoir voyagé beaucoup. Selon Myriam Laroche, qui est experte en mode responsable et qui travaille également au Village des valeurs à titre de créatrice de contenu, elle nous dit que le nombre moyen de fois qu'un vêtement est porté avant d'être jeté a diminué de près de 40 % au cours des 15 dernières années. Donc, il y a 15 ans, chaque vêtement, on le portait au moins presque la moitié plus de fois qu'aujourd'hui. Donc, on achète quelque chose aujourd'hui, on le porte un peu, et très vite, on va s'en débarrasser. Et c'est comme on l'a démontré là, c'est pas parce qu'on le donne qu'il va être porté par quelqu'un ici, ça se peut vraiment qu'il finisse à la dompe. Et ce cycle-là, ou ce réflexe-là qu'on a collectivement, il y a des gens qui sont mis à appeler ça le fast fashion. On serait dans un grand régime là, planétaire de fast fashion. On en fabrique beaucoup, on le fabrique vite, dans des conditions douteuses. Des fois, ça peut être de qualité moindre. Et on va consommer beaucoup de vêtements, on va les porter peu et on va les donner ou les jeter souvent. Et peut-être, en tout cas, ça semble être un cycle qui s'accélère, mais qui ne sera pas soutenable à long terme, et pour sur le plan humain et sur le plan environnemental. Mais on s'accroche à ça. Pourquoi? Parce que ça fait que le prix de chaque item, quand on l'achète, il est un peu plus bas, vu qu'il a été fait très loin dans des mauvaises conditions. Puis souvent, comme on s'intéresse peu à l'histoire de ce vêtement-là, on s'intéresse pas à comment il a été fait, on embarque dans ce cycle-là un peu malgré nous. Puis la publicité nous pousse vers ça aussi, mais faut pas juste blâmer le monde, puis on n'est pas tous des responsables. Juste qu'on en est, c'est comme si on vit dans un système qui nous dit « Ah oui, achète-en un nouveau, achète celui-là. Ah oui, renouvelle ta garde-robe. » Puis moi, la quantité de gens qu'on connaît qui ont une garde-robe pleine, mais qui se disent « Ah, oh, j'ai rien à me mettre. » Comme si d'un coup tout ça aussi c'était plus, ça avait perdu de sa valeur. En fait, peut-être aussi que par rapport à la facilité aujourd'hui de faire des commandes en ligne, ça nous incite à en acheter plus. Ça, par contre, ça peut avoir un effet positif sur le plan environnemental parce que comme il n'y a pas un gros magasin à entretenir, à chauffer, comme toi, tu ne vas pas prendre ta voiture pour t'y rendre puis revenir, si tu es un peu patient dans le magasinage en ligne, ça peut être une bonne façon de d'épargner un peu de transport parce que...
Mais des fois, je regarde l'emballage, par contre. Là.
Effectivement. Il y a un énorme sur-emballage.
Pour les vêtements. Là.
Ça, c'est vrai. Oui. Si, par exemple, le client est un peu patient, tu peux dire, si j'attends quelques jours, la compagnie de livraison va attendre d'avoir plusieurs livraisons à faire dans mon secteur, mettons, je sais pas, au nord de Laval, dans ce coin-là. Un jour, ils vont pouvoir remplir un camion et dans un seul trajet de camion, satisfaire un paquet de clients. Ça peut, ce qu'on appelle optimiser le transport. Sauf que si tu cliques sur l'option « Je le veux demain », ben là, ça se peut que ton petit chandail soit tout seul dans le camion qui va te l'amener pour que tu sois satisfait dès le lendemain dans cette logique de fast fashion, cette consommation rapide. Donc, ça se peut que là, ce que tu pensais sauver sur le plan environnemental, du moins, ça vole en éclats. S'il y a des parents d'ados qui nous écoutent ou même des adolescents dans la voiture ou des profs peut-être, je pense que toute cette grande question-là est un excellent sujet d'exposé oral ou de recherche à l'école. Pour vrai, il y a un film qui est disponible en ligne qui s'appelle True Cost, comme le vrai coût, donc truecost.com, vous tapez ça. La bande-annonce est très parlante, mais le film est disponible au complet. Et c'est une bonne façon de plonger dans l'impact humain et environnemental de l'industrie de la mode. Et à ce fast fashion-là, depuis plus de 10 ans, il y a des gens qui opposent le concept du slow fashion. Donc, y a-tu moyen
de garder vos vêtements plus longtemps?
Y a-tu moyen? Ben, d'abord, c'est dans le choix des vêtements. Qu'est-ce que tu achètes? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que ça peut durer longtemps? Aussi, ça, pour s'en assurer, ben, peut-être que c'est un vêtement qui peut avoir été fait plus proche, plus de façon plus locale. Peut-être qu'il coûte plus cher, mais selon le coût à l'usage, finalement, il finit par coûter moins cher. Donc ça, tapez ça aussi, slow fashion, il y a vraiment plein de bons conseils un peu partout. Et d'apprendre à réparer ce qu'on porte.
Ah, comme le reste.
Alors moi, le coup de chapeau que je vais faire aujourd'hui, c'est à une initiative on avait déjà parlé il y a quelques semaines d'obsolescence programmée, puis donc je vous avais parlé de ces espèces d'initiatives de café réparation, des repair café. Tu peux amener un électroménager ou un ordinateur, tout ça, pour essayer de le faire réparer sur place. Il y en a un spécial textile qui s'en vient en fin de semaine, donc le 5 mai, à la Place Commune, donc au 76-69 Avenue Kerb. Ça, c'est le 5 mai, dimanche. 76-69 Avenue Kerb à Montréal, de 11h à 16h. Tu arrives là avec un bout de vêtement qui est brisé, troué, et il y a sur place machine à coudre, des patchs et des bénévoles qui peuvent te te montrer comment faire. Moi, je sais pas coudre, mais je pourrais aller l'apprendre là-bas. Je sais pas tricoter, je pourrais aller l'apprendre là-bas. Et tout le matériel est disponible sur place pour procéder à une réparation. Il y en a qui vont aller là pour des raisons environnementales, mais d'autres pour des raisons économiques, pour trouver un peu d'argent. Et aussi peut-être pour des raisons émotives, c'est-à-dire qu'il y a un bout de vêtement auquel tu es profondément attaché qui est significatif pour toi. Donc, c'est une bonne occasion. Ça a donc lieu le 5 mai, au 7669 Kerb à Montréal, de 11h à 16h.
Merci, Émile. À la semaine prochaine, 9h06.